RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Vulpilière, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Nous donnons le plaisir de recevoir Thibault Langsade, le président de Lumines. Bonjour Thibault.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1971, diplômé de l'ESCP Europe. Vous avez commencé votre carrière chez Shell. Vous êtes quoi d'ailleurs, le premier job, c'était quoi Thibault?
J'étais quasiment pompiste parce que je m'occupais d'animer le réseau des stations-service chez Shell et j'ai terminé à gérer le réseau autoroutier, donc j'étais vraiment pompiste. J'ai commencé à gérer 30 stations-service dans l'est de la France.
Mais ça forme ça. Hein. Et en 2004, vous êtes le président de Gazinox. Un commentaire sur toutes ces problématiques actuelles liées au gaz en Europe?
Non, parce que c'était une entreprise qui faisait des produits de connectique pour le gaz. Donc on était vraiment sur l'aval de la solution. C'est une entreprise qui appartenait à un groupe suisse qu'on a racheté et qui a suivi un développement merveilleux. Donc ça a été mes premières armes en tant qu'entrepreneur.
Alors vous avez rejoint votre nirvana professionnel chez Lumines en 2017. Alors le nom était différent à l'époque là?
Oui, on a changé de nom il y a à peu près un mois. Ça s'appelait Jouve. C'est une entreprise qui existe depuis 1903 et donc qui a traversé tous les temps, qui était un poète au départ, qui a créé cette entreprise, qui avait du mal à imprimer ses poèmes. Donc il s'est dit, je vais devenir imprimeur. Pas con. Il a été probablement meilleur imprimeur que poète. Et progressivement, l'entreprise, plutôt dans les années 2000, a commencé à opérer une transition digitale. J'ai vendu les activités historiques d'imprimerie.
Et la famille vous a laissé faire ?
Oui, la famille a laissé faire. Et puis, on est devenu un acteur full digital. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien de changer le nom. Je voulais vendre dès que je suis arrivé. Et puis, on a vendu il y a 2 ans. C'était au moment où la crise Covid arrivait. Juste avant que la crise arrive. J'ai vendu. On a fait un closing, mais 2 semaines avant le confinement. Je pense qu'on n'aurait pas vendu. Heureusement, ça s'est très bien passé pour celui qui a repris l'entreprise.
Bon, ça, c'est
un entrepreneur
aussi
incroyable, talentueux. Donc, ça s'est bien passé. On voulait changer de nom. Et puis, finalement, voilà, on a attendu que tout ça se soit stabilisé. Et on est devenu Lumines parce qu'on est à l'étranger. Ça se prononce plus...
Lumines.
Ouais, Lumines. Tout dépend comment on a envie de le dire. Mais c'est plus facile. Et puis, ça indique notre orientation full digital.
Alors, justement, donc c'est une belle ETI, hein, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1600 collaborateurs. L'offre, aujourd'hui, elle est destinée à qui? C'est en étant B2B, Thibault, en B2C?
Non, on est en B2B. Nos acteurs, c'est l'univers de la santé, banque, assurance, mutuelle, services de l'État, à peu près... 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur la digitalisation, ce qu'on appelle le BPO, donc le Business Processing Outsourcing. Et c'est notre capacité à digitaliser tous les flux entrants dans les entreprises. On a un fait d'arme qui est la digitalisation des brevets. On a une spécialité qui est une niche où on digitalise pour l'INPI, l'Office européen des brevets, l'équivalent de l'INPI en Allemagne et depuis peu pour le gouvernement américain.
Alors, justement, racontez-nous, ça, c'est une aventure extraordinaire. Toujours que les marchés américains sont réservés aux Américains, vous êtes l'exemple vivant que non.
Non. C'est une belle aventure pour notre groupe. Donc, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va doubler notre chiffre d'affaires dans les 2 prochaines années. Là, on va faire plus de 65 millions cette année. Et comment on opère ça? Parce que nous avons été dénichés par les Américains qui sont venus nous voir. Le gouvernement américain est venu nous voir pour me dire on cherche un opérateur pour traiter nos brevets. Alors, ça veut dire quoi traiter pour un brevet? Un brevet, c'est quand vous êtes une entreprise et que vous voulez déposer un brevet, vous envoyez un flux documentaire, un descriptif de votre caractère innovant, vous envoyez des schémas, vous envoyez des articles de presse, évidemment plein de formulaires. Tous ces formulaires, nous les captons, tous ces documents, nous les captons, nous les digitalisons automatiquement, nous les ossérisons et au travers d'algorithmes, nous identifions le caractère innovant et nous mettons en forme, ce qui permet à l'humain de passer très peu de temps dans l'authentification d'un brevet.
Et donc, comment ça s'est passé là pour les Américains?
Vous avez Les Américains sont venus nous voir. Ils ont dit, vous faites à peu près la même chose en Europe. Est-ce que vous êtes disposé à répondre à faire une preuve de concept? Alors, au début, j'ai dit oui, mais si ça va nous coûter un peu de sous, parce que faire une preuve de concept, on n'est jamais payé. Et là, ouais. Les Américains nous ont dit, mais pas de problème, on vous paye 4 millions de dollars, ce qui était pour nous un énorme contrat. Et on s'est dit, on va toujours prendre le contrat.
On va toujours prendre 4 millions.
Et puis, on a fait une très belle preuve de concept. Ça a duré à peu près 3 ans. Le processus d'appel d'offres a été long. Et puis, on a été attributaire du marché pour un marché d'1,4 milliard sur 10 ans. Et j'avoue que quand j'ai été notifié, ma réaction première a été de dire aux Américains, mais vous savez, ce sera compliqué de vous donner une garantie d'exécution. Ah mais on n'en veut pas. Je leur ai dit, mais vous savez que ce sera compliqué, moi j'ai pas envie de m'adosser à un grand groupe, mais on vous en demande pas. Mais j'ai pas de garantie financière à vous donner, vous allez me donner de l'argent pour construire la solution, moi j'ai pas de garantie financière. Et là les Américains ont commencé à dire, mais il y a quelque chose qui... Vous voulez pas faire le marché? Vous voulez pas traiter pour nous? Pourquoi vous nous posez toutes ces questions?
Hey, soyez positif, quoi. C'est...
Bah, soyez positif, mais évidemment, j'avais le sous-jacent français qui est de dire bah, d'abord, la taille du marché fait que, logiquement, les marchés publics disent bah, vous êtes en situation de dépendance économique, donc on ne vous prend pas. Vous êtes client unique, donc c'est compliqué. Et puis, compte tenu de la taille de nos fonds propres au regard du marché, généralement, les problèmes arrivent après. Eh bien, la semaine d'après, on avait un virement de 10 millions, et puis l'histoire a commencé.
Extraordinaire. Et vous avez embauché aux États-Unis?
Alors, on embauche en ce moment aux États-Unis, qui est aussi compliqué que d'embaucher en France, voire même un peu plus, parce qu'on on a créé un site à Omaha, on doit accueillir à peu près 1000 collaborateurs. On espère être opérationnel dans quelques semaines maintenant. Semaines maintenant, où on espère avoir l'autorisation officielle pour opérer. Et puis avec un go-live qu'on devrait avoir au mois d'octobre, novembre, donc ça va très très vite. Et c'est une très belle aventure. Donc on va doubler notre chiffre d'affaires et on double nos personnels. On est un peu moins de 2000. Voilà, on sera un peu moins de 3000.
Plus de nouvelles opportunités sur le marché d'Amérique du Nord.
Alors c'est pour nous une belle opportunité de croître, évidemment, aux États-Unis avec toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on part from scratch. On avait une filiale qui faisait 20 millions de dollars, mais qui était dans le digital learning. Et on ne s'est pas du tout appuyé sur notre savoir-faire sur place. Donc on a créé Xnilo, tout. Et ça, c'est passionnant.
Arnaud, belle aventure, hein, belle histoire. Aventure.
Donc si je comprends bien, pour que ce soit parfaitement clair, vous doublez votre CA avec une avance client et sans impact sur votre tour de table.
Exactement, c'est un peu ça, avec le danger d'avoir un client unique,
hein, bien sûr.
Assez fort, ça déplace une partie de nos activités aux États-Unis, mais c'est pour nous une très belle opportunité d'aller chercher d'autres marchés publics, d'autres marchés auprès des entreprises, et on va utiliser toutes nos infrastructures pour faire ce développement qu'on commence à faire. Voilà, on essaie de construire un pipe d'opportunités, et puis surtout d'essayer de voir si on peut acheter aux États-Unis pour accélérer notre croissance. Donc là, on a un bon pied. Encore un peu fragile, hein. Il faut qu'on recrute nos personnels, il faut qu'on ait toutes les autorisations, mais ça sent plutôt bon. Mmh. Les indicateurs sont plutôt ouverts.
Arnaud ?
Et en termes de recrutement, justement, donc vous recrutez en France, vous recrutez aux États-Unis. J'imagine que vous avez aussi la question de la gestion des talents, la grande démission. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? Et quand on travaille dans le digital avec des enjeux d'impact qui deviennent de plus en plus prégnants sur les jeunes générations, comment vous conjuguez tout ça ?
Ben, c'est très compliqué. Alors, d'abord, aux États-Unis, il faut voir que dans le recrutement, comme on part de zéro, on a une règle qui est le recrutement des minorités. Donc, je le dis très librement.
Il y a un cahier des charges.
Il y a un cahier des charges. Nous devons avoir des minorités. Alors, ce qui est impensable en France, parce qu'il faut tenir des listes sur les communautés, sur les préférences, mais y compris sexuelles. Et donc, on établit des listes pour être sûr qu'on répond aux minorités, qui est le cahier des charges que nous avons avec les marchés publics. Donc, mon DRH pose quelques questions quand on dit est-ce qu'on a.
Est-ce que vous avez une CNIL locale ?
Est-ce que vous avez des Portoricains ? Est-ce que vous avez des Apaches, des Sioux et sur les genres bon, bah, il faut le monitorer. Mais surtout, on le sous-traite entièrement. Donc, ce processus de recrutement est sous-traité à des acteurs locaux pour une raison très simple, c'est que quand vous gagnez un marché aux États-Unis aussi important, 20% de ce marché doit être redistribué auprès de TPE, de PME, de droit américain. Et comme on fait tout, eh bien, on a dû trouver des prestataires et on a délégué ce recrutement. Alors, il est vrai que la grande démission, en ce moment, est réelle aux États-Unis. Ce qui est très réel aux États-Unis, c'est que avant, quand vous quittiez une entreprise, généralement, le délai était très, très court. Et ce que l'on observe, c'est que le délai, maintenant, est à peu près le temps qui couvre... Enfin, c'est la couverture sociale qui donne le tempo. Et la couverture sociale, quand un salarié quitte une entreprise, c'est à peu près 2 mois. Mmh. Et donc, on a de plus en plus, quasiment beaucoup de salariés qui prennent ces 2 mois pour réfléchir à une opportunité, qui prennent le temps de respirer, ce qui était impensable aux États-Unis. Ensuite, on est en situation de plein emploi chronique aux États-Unis, hein, puisque le taux de chômage est quand même très faible. Et donc, cette grande démission, elle est très forte. Elle est très forte dans les agglomérations, une raison pour laquelle on est allé un peu plus dans le centre des États-Unis. Et puis, on est extrêmement tendu sur les profils IT, parce que, comme en France, la rareté des profils c'est une vérité. Et donc, il faut payer un peu plus cher. On est arrivé, quand on a fait nos modèles économiques, on est à peu près à $7 de l'heure. Et aujourd'hui, en moyenne, hein, dans les États, on est à $15 de l'heure.
On a doublé.
Ouais, et voire même sur Boston, New York, on est à $20-25 de l'heure sur des populations à bas salaire. Donc il y a un vrai sujet. Pour le moment, on est dans une dynamique de croissance aux États-Unis. Alors, on parle un peu de stabilisation. Mais ça reste une préoccupation. Donc on sous-traite les talents. On essaye de faire vivre cette belle aventure. Donc, c'est toujours plus facile quand on construit avec des locaux nouveaux.
Bien sûr.
Promesses d'aventure de construction. Ouais. Mais ce n'est pas simple.
Antoine ?
Oui, alors vous êtes soumis au process de commande publique américain.
Très sympa vos menottes, hein. Très sympa, oui.
Ma question, c'est par rapport à ce qu'on connaît de la commande publique en France. Quel enseignement vous en tirez ? Est-ce que tout est à revoir chez nous en s'inspirant du modèle américain ? Ou est-ce que finalement, il y a des choses positif, qu'est-ce que vous prendriez, laisseriez des deux systèmes ?
Bah, je trouve que d'abord le processus du Small Business Act, qui consiste à dire qu'au-delà de plus de 2 millions de dollars, on a une redistribution qui est faite en embarquant des TPE-PME, est intéressant. Parce qu'en France, la façon dont ça s'opère, c'est que souvent, ce sont les grands groupes qui embarquent à leurs conditions les TPE-PME. Bon. Après, quand on regarde les chiffres, globalement, les entreprises de petite taille ou les PME ont à peu près 33% de la commande publique, ce qui est pas mal. On pourrait monter un peu plus. Je pense que le seul levier de croissance qu'on peut avoir dans les années à venir, c'est certainement pas la baisse des charges, parce que le pays, à un moment, ne pourra pas résister. Et donc, je pense pas que les gouvernements viendront, malheureusement, à continuer à baisser les impôts et les charges qui pèsent sur les entreprises, mais c'est la simplification. Et la mesure que je propose, c'est de libérer les marchés et d'exonérer, on va dire, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de processus d'appel d'offres jusqu'à 500 000 euros et d'autoriser les marchés publics à passer, on va dire, des marchés sans processus d'appel d'offres quand on est dans un caractère de souveraineté. Et ça, c'est conforme au droit européen. Il faut une adaptation du code des marchés publics et ça aurait un avantage. C'est que, un, d'abord, ça va libérer la commande publique.
Bien sûr, beaucoup plus rapide, agilité.
Plus rapide, l'agilité. Et deux, ça mettrait les PME dans une position de force vis-à-vis des grands groupes, parce que ce serait du coup les PME qui embarqueraient ou les ETI qui embarqueraient les grands groupes pour compléter l'offre qu'elles ne pourraient pas avoir, on va dire, derrière elles. Et ça changerait radicalement le processus. Processus d'exemption sur 2 ans, parce qu'il faut le tester, avec il y aura probablement des effets d'aubaine, il y aura probablement, on va dire, des zones de risque, mais je pense qu'on peut se le permettre, et c'est ça la simplification qui nous permettrait de prendre des points de croissance, notamment auprès des petites et moyennes entreprises.
Absolument. Antoine ?
Alors, ma deuxième question, elle est plus anecdotique, mais c'est vrai que c'est un très beau et très gros marché que vous avez remporté aux États-Unis. Vous dites que les Américains sont venus vous chercher. Comment ils l'ont fait ? Comment se passe le premier contact ?
Hello, Thibault.
Voilà.
Bah, c'est quasiment ça, mais les Américains, ils sont super pragmatiques. C'est-à-dire que ce qu'ils recherchent d'abord, c'est le produit, la spécificité de l'offre et ce qui leur permettra de pouvoir évidemment produire à moins coût. Et donc, ils ont fait un audit. Ils sont allés voir nos clients, en quelque sorte, en disant, mais comment ça se passe ? Notre nom est ressorti, puis ils ont frappé à notre porte. Alors, c'est un peu surprenant quand...
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est l'Office américain des brevets, donc on n'était pas complètement démunis. Mais j'avoue que l'approche qui consiste à dire, bah, on vient vous voir, faites-nous un POC, et on va vous le payer. Et puis, si vous êtes bon, bah, vous allez pouvoir... Alors, après, il y a un process. Hein, on répond à un RFI, un RFP, donc un proposal pour information, pour... prix, tout ça, ça prend du temps. On a un peu galéré, on a investi, hein, du coup. La prise de risque pour moi, c'est que globalement, un appel d'offres, ça coûte un peu plus d'un million. Donc,
c'est
pour la taille, pour la taille de mon entreprise, c'est un pari, maintenir des compétences, maintenir du conseil, construire une proposition, la faire vérifier juridiquement, puisque les Américains, c'est super rapide sur certains points, mais il y a des points auxquels il faut être très vigilant. C'est tout ce qui est juridique, auquel il faut qu'on soit bien armé. Donc, ça a été une petite épopée. Et qui a duré longtemps parce qu'ils n'ont pas donné leur réponse si vite que ça, quand même s'ils sont très pragmatiques. Et après, Vraiment, ce qui a été surprenant, c'est que je m'attendais à ce qu'ils me demandent des contreparties. Qui est de dire, bah voilà, vous êtes petit, maintenant on va demander à Oracle de vous incorporer.
Non, et non.
Pas du tout.
Respecter les 20%.
Voire même, me poser des questions en disant, mais qu'est-ce qui vous chiffonne? Vous voulez pas le faire?
Bon, voilà, on s'est arrêté.
Très bien, très bien. Alors Thibault, en 2019, vous avez été nommé par Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, ambassadeur à l'intéressement et à la participation, et vous avez également publié un livre sur ce sujet. Alors, les enjeux des dividendes salariés?
Bah, les enjeux, en fait, compte, c'est le partage de la valeur. Je pense que on parle beaucoup de nouvelles valeurs du capital, du capitalisme remodelé, rénové, et je pense que le point le plus important, c'est le partage de la valeur. On est le seul pays au monde, on va dire, qui, chaque fois qu'une entreprise sort des dividendes, voire même de bons dividendes, l'entreprise est traitée, est conspuée,
est critiquée.
En Allemagne, ça se passe pas comme ça. En Angleterre, ça se passe comme ça. Évidemment, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Ça passe pas comme ça. Et donc, je pense qu'il faut réconcilier une partie des Français avec cette notion de capital et de dividendes. Et dans la proposition que je fais, c'est de restaurer la participation qui a été créée par le général de Gaulle. En disant qu'une entreprise qui verse des dividendes, elle doit verser de la participation. Et aujourd'hui, c'est plus possible de faire autrement. Le deuxième point, c'est que la participation doit être étendue à toutes les entreprises, parce que c'est une règle d'équité. Et il faut aussi faire en sorte que la fiscalité qui soit liée aux dividendes se rapproche, de la participation se rapproche de celle du dividende, c'est-à-dire une flat tax. C'est ce que j'appelle le dividende salarié. Dans la loi, la participation, c'est le dividende travail, donc on n'en est pas très très loin. Mmh. Alors ça provoque beaucoup de réactions, parce que le dividende, pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est aussi sa rémunération.
Absolument.
Se dire, est-ce qu'on va la partager? Je dis que c'est pas un tiers, hein, c'est une règle qu'il faut conserver. Je mets au défi de parler de la formule de participation. Je pense que vous la connaissez tous par cœur. C'est extrêmement simple, hein, qui est, je le répète pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le bénéfice net fiscal moins 5% des capitaux propres fois un demi multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée. Donc c'est assez compliqué pour un patron de connaître l'impact de la participation au fil de l'eau de ses résultats. Et je pense que la participation doit être un pourcentage du bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C'est beaucoup plus simple, en tout cas.
Ce qui est beaucoup plus simple. Voilà ce que j'appelle le dividende salarié, pour mieux réconcilier les Français avec le capital et faire en sorte que cette question de dividende, eh bien, soit lissée dans le temps. Parce que si on verse des dividendes et qu'on verse également du dividende salarié, ouais, il y a une réconciliation qui s'opère.
Thibault Langsade, après avoir été vice-président du MEDEF, vous êtes aujourd'hui président des URSSAF. Alors, quels sont les chantiers prioritaires? Citez-nous les 300 premiers chantiers.
Bon, les trois premiers sujets des URSSAF, c'est que d'abord, il y a un plan d'appurement compte tenu de la crise Covid. Il y a à peu près 20 milliards qui ont été décalés pour les entreprises. La très bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est une information, c'est que il y a à peu près 11 milliards de décalage de charges pour les entreprises. Et le plan d'appurement a permis de recouvrir à peu près 7 milliards. Donc, il y a 4 milliards à récupérer, ça se passe très très bien. Et puis, il y a à peu près 10 milliards pour les indépendants, et ça prendra un peu de temps. Il y a 3 milliards qui ont été récupérés. Le point de vigilance, c'est que tout ceci va commencer à correspondre avec le remboursement du PGE.
Oui.
Et donc, les deux liés, il va falloir être extrêmement attentif à la défaillance d'entreprises, de ne pas tuer les entreprises qui sont en capacité de rebondir si elles sont asséchées en termes de trésorerie, et puis de prendre des décisions au travers de procédures collectives pour les entreprises qui doivent péricliter. Donc, il y a un point de vigilance. Le premier sujet, c'est de s'assurer que ça se passe bien, parce que ça va se passer encore dans quelques années. Le deuxième point, c'est que les URSSAF ont eu un rôle incroyable. Ça a été très souvent perçu.
Pendant la crise, vous voulez
dire. Pendant la crise, parce qu'elles ont tout de suite, mis en place les dispositifs nécessaires pour que les entreprises ne payent pas dans une très grande facilité avec aucune paperasse. Les entrepreneurs se sont occupés de rien et les URSSAF ont tout géré. Et ces contrôleurs qui étaient mal vus, parce que globalement, quand le contrôleur...
C'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà.
C'était pour contrôler les notes de frais ou remettre d'équerre ce qui n'était pas et parfois de façon pointilleuse, se sont vus confier le rôle de conseiller auprès des entreprises. Et donc, ces conseillers un peu contrôleurs, un peu mal perçus, ont joué pendant 2 ans un rôle incroyable de soutien auprès des entrepreneurs. Et ça, il faut conserver cette capacité de conseil, de service des URSSAF, évidemment conserver la partie contrôle sur le travail dissimulé et ainsi de suite, mais ça, il faut le concrétiser, et ça, c'est la tâche que je vais essayer de mettre, c'est de faire en sorte qu'il y ait Chinese Wall, de mettre en place ces structures de conseil pour continuer à faciliter la vie des entrepreneurs.
Thibault, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI ou alpiniste?
Eh bien, j'ai longtemps hésité. J'avoue que je fais un peu d'alpinisme pendant les vacances, mais j'aurais aimé être alpiniste, ça c'est clair. Mais bon, je retrouve quelques points de similitude.
Allez, pour terminer, votre meilleur temps en marathon, c'était combien, quand ?
C'était 3,28, c'était il y a 4 ans, à Paris.
À Paris, quoi.
À Paris.
Merci beaucoup, Thibaut. Le nom de votre nouvelle société, comment c'est, ça a changé ?
C'est Lumines.
Lumines. Merci également à vous, Arnaud et Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et retrouvez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Nous donnons rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.